Bonsoir à toutes et à tous pour ce dernier conseil municipal de l'année. Et quelle année ? Ce virus, on l'a pris de plein fouet au mois de mars. Et malheureusement, on va l'avoir encore l'année prochaine pour une bonne paire de semaines, voire une bonne paire de mois. Comme vous le remarquez, nous sommes donc encore dans la salle des Muliers pour le conseil municipal, mais nous avons aussi autorisé le public sous forme restreinte. Mais je vois que même en ayant un format restreint, il y a quand même très peu de public, ce qui est de toute façon le cas à chaque fois, malheureusement, dans la participation du public. Avant de prononcer quelques mots et ensuite passer à l'ordre du jour, je vous informe que Madame Rasson a effectué son dernier conseil municipal lors du précédent conseil. Donc elle a fait valoir ses droits à la retraite, donc elle n'est pas présente ce soir. Et c'est Monsieur Hanck, premier adjoint, qui sera chargé de comptabiliser le nombre de voix. Concernant son remplacement, c'est Monsieur Yacine Guérouche qui sera le nouveau directeur général des services à partir du 1er janvier 2021. Je pense que beaucoup de personnes ici connaissent cet individu et cet agent, vu qu'il était élu sur notre dernier mandat. Ce conseil aura une tonalité particulière, car je souhaiterais que notre conseil municipal rende hommage à deux personnes. La première, et je vais laisser la parole à Agnès, c'est à Monsieur Jacques Secrétin, qui a été un immense joueur de tennis de table. Je vais te laisser la parole, Agnès.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc merci, Monsieur le maire, de me laisser la parole. L'hommage de Jacques. Donc Jacques Secrétin, donc évidemment une légende, hein, la légende du tennis de table, un des plus grands sportifs français et international. Donc natif de Carvin, donc dans le 62, en 1949, Jacques a toujours gardé une attache forte pour la région, et encore plus pour l'Isle-Annois et ses environs. Il habitait Tourcoing, il était au club de l'Isle-Annois depuis 12 ans. Il vient de décéder dans la nuit du 24 au 25 novembre 2020, à 71 ans, d'une crise cardiaque brutalement. Son palmarès fait de ce pongiste l'un des sportifs français les plus titrés. 65 titres de champion de France, 495 sélections en équipe de France, 237 médailles à l'étranger, dont 117 en or, 4 titres européens, 1 titre mondial. Ses résultats, sélections, lui ont valu d'être reçu par 4 présidents de la République, dont le général de Gaulle, alors qu'il n'avait que 13 ans. Médaillé de l'Académie des sports en 1976, Jacques a été élu meilleur pongiste français du siècle. Il est chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Il a été gloire du sport, élu gloire du sport en 2006. Plusieurs salles de sport, square et une rue à Léquin portent son nom. Professeur de sport, agent du ministère des sports, il a été placé auprès de la Fédération française de tennis de table, notamment pour mener des actions au sein du milieu carcéral, qu'il a développé jusqu'à sa retraite. Il était également connu pour ses spectacles pongistes aux côtés de Vincent Purcard, pour lesquels il assurera 4000 représentations à travers le monde. Il a fortement contribué à la médiatisation, la reconnaissance et la démocratisation de son sport. Il se disait être un enfant de la balle du titre de son livre. À 71 ans, il s'entraînait encore dans la salle Valeria Borza de l'Isle-Annois. Il évoluait dans les championnats régionaux. Il aimait dire qu'un homme sans projet, c'est un homme mort. Des projets, il n'y en avait pas encore plein à la tête. Il se préparait notamment au prochain championnat du monde vétéran où on devait jouer ensemble, en mixte, avec l'ambition d'y accrocher un titre supplémentaire à son palmarès. Cet homme au grand cœur et si humble a partagé auprès des Lissois, des Lissoises tant de belles valeurs. Il nous a conseillé, guidé, rassuré, accompagné dans les victoires comme les défaites. Il aimait transmettre et à chaque échange, l'équipe féminine de Lys en tirait une leçon. Il nous rappelait sans cesse, quand on apprend à perdre, c'est à ce moment qu'on se met à gagner. Le ping perd son maître, le club perd un équipier, un partenaire de ping et de pétanque, de soirée, un compétiteur, un ami, un homme reconnu pour son fair play. Il avait eu le challenge du fair play mondial. Sa convivialité, nous mesurons la chance de t'avoir connu. Pour toutes ces raisons, l'hommage qui t'est rendu doit être à la hauteur de ton œuvre. Pour le ping et pour la leçon de vie que tu nous as donnée. Merci. Pour terminer, nous avons une immense pensée pour tes enfants, tes proches, les membres du CPLIS, ton épouse Nathalie et ton fils Morgan. Merci.
La période actuelle n'est pas propice pour rendre un hommage à public et sportif à M. Secrétin, mais nous le rendrons cet hommage, la ville rendra cet hommage en partenariat avec le club pongiste dès que la situation sanitaire le permettra, avec un événement à la hauteur du personnage. En parlant de grands personnages, je souhaite aussi rendre hommage à Monsieur le Président Valéry Giscard d'Estaing. En plus, c'est la journée d'hommage ce jour. C'est un grand président de la République. De nombreuses réalisations ou lois sont dues à son initiative. Les médias en ont rappelé quelques-unes. Il y a évidemment la majorité à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, le divorce par consentement mutuel. Il y a également des choses qui n'ont pas forcément été évoquées dans les médias ou très peu. On peut citer le plan télécom qui a permis à la France d'avoir un réseau de communication à la hauteur de la grandeur du pays. Là également la fin de l'ORTF avec une certaine liberté médiatique. Et je tiens aussi à rappeler une chose qui n'a pas du tout été évoquée, mais c'est une vision de la démocratie. Le président Giscard d'Estaing était un très grand démocrate, car il faut savoir que lors de la présidentielle, lors des élections présidentielles de 1981, si Monsieur Giscard d'Estaing avait publié la photo qu'il avait en sa possession de Monsieur François Mitterrand recevant la Francisque de la part du maréchal Pétain, le vote aurait sans doute été contraire. Mais il ne voulait pas placer ces questions personnelles et ces questions qui ne relevaient pas de la démocratie. Il préférait un débat projet contre projet et il a perdu. Et je pense qu'on ne l'a pas assez mis en avant, le côté démocratie de la part du président Giscard d'Estaing. Et je tiens également aussi à souligner son engagement dès son plus jeune âge, car il s'est engagé dans la résistance et dans les forces françaises libres. Et pour Monsieur le Président Giscard d'Estaing, ainsi que pour Monsieur Jacques Secrétin, je souhaiterais qu'on fasse une minute de silence. Je vous remercie. Alors nous avons évoqué et rendu hommage à deux personnalités qui ont marqué les années 70. Et vous, dans les annonces que je vais vous faire dans quelques instants, elles seront aussi empreintes un peu des années 70. Car comme vous le savez, depuis de nombreuses années, quelles que soient les majorités, la ville a souhaité construire une nouvelle cuisine centrale ainsi qu'une nouvelle école maternelle Paul Bert. Le coronavirus a changé un peu le calendrier. Un peu est un euphémisme. Donc la démolition de l'école maternelle commencera à partir du mois de janvier, dès le 1er janvier. Et cette salle, si la salle André Desmulliers, qui s'appelait à l'époque le foyer restaurant Paul Bert, redeviendra le foyer restaurant pour l'école maternelle lors des mois de janvier et février, voire peut-être début mars, pour que les enfants puissent déjeuner en toute sécurité loin d'un site qui est en démolition. Les écoliers auront leur salle de classe dans les blocs modulaires au niveau du parc Maréchal. Je tiens ici aussi à évoquer quelque chose qui m'énerve un tout petit peu. C'est que ce soit la mandature précédente, je parle sous le contrôle de M. Jeanne, que ce soit l'équipe précédente encore, l'État a demandé de faire des travaux pour cette école maternelle. Il y a eu des menaces de fermeture pour des questions de sécurité. À ce jour, les subventions que nous avons obtenues de la part de l'État, c'est zéro. Pourtant, M. le Président Emmanuel Macron a bien parlé d'un plan de relance et d'une aide pour les bâtiments publics, notamment les écoles, qui étaient dans une démarche de reconstruction et surtout de diminution de l'empreinte écologique. Aujourd'hui, nous avons 0 euro de subvention. Seule Lamel nous a aidés sur la construction de cette école maternelle. En parlant de l'État, aujourd'hui, nous allons avoir une délibération pour adopter un nouveau règlement intérieur. Pour ceux qui ont suivi les travaux à distance ou alors pour l'ensemble des conseillers municipaux, au dernier conseil, nous avons adopté un nouveau règlement. Mais la préfecture, pour quelques mots, une virgule, a demandé de revoir le règlement. On le fera, ce sera fait ce soir, je pense, avec un très bon travail de tous les groupes pour élaborer ce nouveau règlement, même s'il n'y a pas eu de grandes modifications. Donc il y a des gens en préfecture qui s'amusent à compter les virgules. Par contre, monsieur le préfet, qui vient avec le directeur de l'ARS des Hauts-de-France, avec le directeur du CHU, lors du 26 octobre, au Conseil métropolitain, pour annoncer que des villes avaient des taux d'incidence du Covid qui était au-delà des normes acceptables, a dit qu'il avait contacté 10 maires de la métropole, les 10 maires les plus touchés, le vendredi. Il a également annoncé qu'il contacterait le lundi suivant les 10 maires qui suivaient, donc les 20 maires. Le mardi, j'ai appris par la Voix du Nord via France Info, que la ville de Lille était la 9e ville la plus touchée de France. Et la préfecture, aucune nouvelle. La préfecture aujourd'hui s'occupe de réglementation et n'a pas forcément de communication envers les élus locaux. On nous pond des règlements, il y a beaucoup d'effets d'annonce, le Covid, ça en fait partie, et la rénovation des écoles, c'est la même chose. Que ce soit sur le monde sportif, que ce soit sur le monde scolaire, que ce soit sur le monde culturel, que ce soit sur le monde économique, aujourd'hui, l'administration et les préfectures sont complètement à côté de la plaque. On a beaucoup entendu depuis de nombreuses années que les communes étaient mal gérées, étaient loin des citoyens, ne s'occupaient pas des problèmes. On voit qu'aujourd'hui, dans cette crise, la seule collectivité qui est présente, c'est la commune. Quelle que soit la ville, je ne parle pas spécifiquement du travail des élus de Lisle-la-Noix, ni des techniciens de la ville. Je parle de l'ensemble des communes. Heureusement que les communes sont là. Car la préfecture, qui aujourd'hui nous fait revoir un règlement pour 4 lignes, a été incapable de donner des masques pour les soignants de l'hôpital de Roubaix en réanimation. Ce sont les villes, et notamment la ville de Lisle, qui en ont donné. Donc, discuter pour des virgules, je pense que la préfecture, elle devrait se réorganiser et être plus près des citoyens. Voilà mon ce que je tenais à dire à ce sujet. Et pour avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais quand même terminer mon propos sur une note plus que positive. C'est l'acquisition par la ville de Lys-et-Lannoy de la maison de la rue du Verpré. Donc cette maison comporte un terrain de 5 300 m² à peu près, avec une parcelle arborée qui représente aux alentours de 5 000 m², en plein cœur de ville. Sur ce sujet, les élus n'ont pas la science infuse. Les citoyens doivent s'impliquer. Alors, je ferai envoyer pour la fin de semaine un appel aux élus volontaires pour constituer un groupe de travail par rapport à une charte de la participation citoyenne. Cette participation citoyenne, je la souhaite large, avec des riverains, des Lissois, pas forcément du quartier, et également des personnes qui sont expertes dans leur milieu. On a la chance d'acquérir un écrin de verdure, un terrain où on a l'impression d'être en pleine forêt, dans l'une des villes les plus denses de la métropole. J'aime bien le citer, mais nous sommes quand même dans la 10e ville la plus dense de la métropole européenne de Lille, et nous avons eu la chance de sauver ce site où une construction immobilière aurait été la seule solution pour les vendeurs. Et je tiens ici à rappeler et à faire part de la volonté de la famille de préserver le site. Et c'est grâce à eux, c'est grâce à la famille et bien sûr grâce à la ville que le site est préservé. Ils ont tout de suite contacté la mairie en début d'année 2020 pour trouver des solutions afin que la maison et le terrain restent en l'état. Voilà, maintenant je vous propose de passer à l'ordre du jour, à l'appel peut-être d'abord. Voilà, à l'appel. Donc je vais laisser Julie faire l'appel.
Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Monsieur Christophe Hanck. Madame Agnès Lelanic. Monsieur Conrad Valran. Madame Zora El-Basri. Monsieur François Mortier. Madame Nathalie Pastoré-Top. Monsieur Thierry Le Mans. Madame Marie-France Seyss. Monsieur Philippe De Bruyle. Madame Irène Ferranc. Monsieur Jean-Claude Gavrin, Madame Pascale de Metz, Madame Manuela de Freitas, Madame Marie-Christine Prokopovitch, Madame Valérie Selos, Madame Tecla Ménager, Monsieur Nicolas Ledru, Monsieur Marco Gigante, Monsieur François Desbouvry, Monsieur Gilbert Amblot, Monsieur Francis Pilois, Madame Séverine Rasson, Monsieur Amaury Medji, Madame Maryse Legros, Madame Claude Prince, Monsieur Gaëtan Jeanne, Monsieur Francis Ménager, Madame Mélanie Vanov, Monsieur Francis Landré, Madame Janine Desmulliers, Monsieur Frédéric Powels.
Merci. Donc je vous propose maintenant de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2020. Y a-t-il des remarques ? Sur Monsieur Landré.
Alors juste une remarque et positive, Monsieur le maire. J'ai été surpris positivement que vous aviez nommé au sein de la commission communale des impôts une personne habitant la Belgique. Donc c'est bien, c'est bien. Une personne que vous aviez présentée.
Ouais, alors c'est une obligation. La loi de présenter des gens qui sont contribuables sur la commune, mais qui ne résident pas sur la commune. Voilà, c'est
comme ça. Je croyais que c'était plutôt parce que c'était le mari de l'ancienne secrétaire de mairie et également beau-père d'une élue de la commune. Donc c'est un... Voilà, merci.
Cette personne qui est dans la commission des impôts paye des impôts sur Lys, donc c'est normal qu'elle puisse être présente dans une commission parce qu'elle paye des impôts. Il y a des gens qui sont élus qui ne payent pas des impôts sur Lys. C'est comme ça. Voilà. Donc qui s'abstient, qui est contre, donc qui est pour. Adopté à l'unanimité. Comme j'ai beaucoup parlé, je vais passer la parole à Thierry pour le règlement général du cimetière.
Oui, merci. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, pour le règlement général du cimetière, il vous est proposé de constituer une commission spéciale pour élaborer le nouveau règlement du cimetière. Donc, dans le cadre de l'évolution des pratiques funéraires, le règlement général du cimetière nécessite l'élaboration d'un nouveau règlement. Il nous est proposé de créer une commission spéciale chargée d'élaborer ce nouveau règlement qui sera soumis à un prochain conseil municipal. Elle sera constituée de 8 membres. 6 personnes de la majorité, 2 personnes de la liste Agir Ensemble. Les candidatures sont les suivantes pour la liste majoritaire. Je la donne, monsieur le maire. Monsieur Nicolas Ledru, madame Irène Ferranc, madame Marie-France Cesse, madame Thécla Ménager, pardon, excusez-moi, j'ai juste un petit trou de mémoire. Monsieur Jean-Claude Gavrin est la 6e personne et je la repère. Je ne la vois pas. C'est moi-même, pardon. C'est pour ça que je ne la voyais pas. Excusez-moi pour ce petit moment de faiblesse de ma part. Pour la liste Agir Ensemble. Très bien, merci beaucoup.
Ben on va. S'il y a des questions, des précisions, non. On peut passer au vote. Bon. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Adopté à l'unanimité.
Je passe la parole à Thierry. Voilà, concernant l'adoption du nouveau règlement intérieur.
Alors, concernant l'adoption du nouveau règlement intérieur qui annule et remplace la délibération numéro 2020.77, avant de vous proposer la délibération, je tenais à remercier tous les membres de la commission qui ont bien voulu se déplacer et revoir les points de détail sur lesquels on nous a demandé de réfléchir avec, comment dirais-je, une certaine urgence. Par délibération numéro 2020.44 du 3 juin 2020, le Conseil municipal a décidé d'appliquer le règlement intérieur du mandat précédent, modifiant uniquement les intitulés des commissions et permettant ainsi de se donner un délai supplémentaire pour la rédaction du nouveau règlement intérieur. Par délibération numéro 2020.43 du 3 juin 2020, une commission spéciale chargée d'élaborer un nouveau règlement a été créée. Ses membres se sont réunis et ont établi un nouveau règlement, 6 juin annexé, qu'ils proposent à l'ensemble du conseil municipal d'adopter. Il s'agissait de revoir quelques articles, dont l'article 1.3 concernant les points non prévus à l'ordre du jour. Je vous lis la modification. Concernant les éléments survenus postérieurement à l'envoi des convocations, une fois la séance ouverte, seul le maire peut mettre en cours de séance toute affaire en discussion. Il peut faire délibérer le conseil sur des faits ou documents postérieurs aux convocations, mais liés à l'ordre du jour. Ensuite, nous avons apporté une petite modification concernant l'article 3.1 sur le déroulement de la séance que vous avez en annexe. Puis l'article 3.8 sur les amendements. Et enfin l'article 1.3 sur le fonctionnement des commissions municipales. Ainsi que l'article 6.1 modification du règlement intérieur. J'ai terminé pour ma part.
Voilà, je ne sais pas s'il y a des demandes d'intervention à ce sujet. Et donc, la préfecture va s'amuser à relire ce document. Donc, on va peut-être passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui vote pour ?
Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.
Merci. Désignation des membres élus à la commission communale de sécurité. Donc, suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder à la désignation des membres élus à la commission communale de sécurité. Outre messieurs le commissaire de police, le commandant du corps des sapeurs-pompiers de Roubaix, le directeur des services techniques de la mairie, cette commission comprend deux membres du conseil municipal qu'il convient de désigner. Donc nous proposons la candidature de Nicolas Ledru et de Marco Gigante. Donc, je vous propose de valider cette proposition. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui vote pour ?
Donc les membres de la commission communale de sécurité ont été élus à l'unanimité.
Merci. Donc nous passons à la décision modificative de crédit numéro 3. Donc vous avez ça dans vos documents et puis c'est affiché. Donc les choses plutôt qui relèvent notre attention, ce sont 2055 euros au niveau des dépenses d'investissement que nous retrouvons également en recettes de. En dépenses de fonctionnement, pardon, que nous retrouvons également en recettes de fonctionnement. C'est une subvention de l'État concernant la reliure d'actes administratifs. À 50%, bien sûr. Ensuite, au niveau des recettes d'investissement, donc c'est la dernière partie où là, je pense que je souhaite le rappeler, même si tout ça, ça a été évoqué en commission. C'est notre besoin d'emprunt qui diminue de 283 000 euros, presque 284. Ensuite, le produit de cession, donc c'est la vente du terrain que nous avions, qui a été voté lors du précédent mandat, du petit morceau de pelouse pour une extension de jardin au coin de l'avenue Paulbert et de la rue Jean Moulin, après la cabine électrique. Ce qui est devant la cabine électrique reste bien propriété municipale. Ensuite, autre subvention d'équipement non transférable, ce sont les 265 000 euros de la métropole européenne de Lille pour l'école Paulbert, l'école maternelle Paulbert. Et ensuite, ce sont des petites subventions ou des participations concernant du matériel pour les agents municipaux. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur cette décision modificative. Non, c'était très clair. Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Merci.
La décision modificative est adoptée à l'unanimité.
Donc là, je vais pour la décision, pour la délibération suivante, je laisse la parole à Madame Cesse. Monsieur Landré.
Écoutez, tout d'abord, merci d'avoir pris en compte les remarques que nous avons faites lors de la commission. Juste une petite précision, nous avions voté 225 000 euros de subvention à l'école Saint-Luc. On avait présenté ça en commission enseignement et jeunesse. Également, la compte de 75 000 euros, toujours à cette commission. Et là, on parle donc d'une subvention également à l'école Saint-Luc et on la présente en commission finance. Je pense que c'est un problème de crédit au niveau des lignes budgétaires. Mais il serait bien, dans ce cas-là, qu'on la présente également ou qu'on en soit informé en commission enseignement préalablement. Pour que les personnes qui sont à la commission enseignement, parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont de commission, puissent avoir également les informations.
Oui, je peux être d'accord avec votre propos de manière absolue, mais de manière relative. C'est pour ça que nous avons aussi un compte-rendu de toutes les commissions qui est envoyé à chaque conseiller municipal, même s'il n'est pas membre de la commission. Donc les informations sont transmises. Et puis je pense que aussi la représentation des groupes permet aussi cette discussion. C'est aussi peut-être l'occasion de rappeler votre intervention, que la ville met à chaque fois à jour le coût du public par rapport au privé, ce qui nous évite de nombreux contentieux, parce que nous sommes l'une des seules communes, même si ça commence à devenir un fait majoritaire, mais à respecter la loi en matière de reversement public-privé et à considérer les écoles de manière égalitaire. Mais vous aurez l'ensemble des dépenses relatives à l'école Saint-Luc dans le compte administratif et comme ça on pourra faire des comparaisons année par année.
Merci.
Voilà, donc je vous propose de passer au vote maintenant. Qui s'abstient, qui est contre, qui vote pour. Merci.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Donc là, c'est une avance sur subvention. Donc vous connaissez le principe. Ce sont des délibérations classiques pour la fin d'année. Ce sont des avances pour les différentes structures où nous avons des partenariats ou que nous finançons pour qu'ils puissent commencer leurs activités sur le début de l'année qui suit, donc en l'occurrence cette année, l'année 2021. Donc là, on parle de l'association Espoir. L'avance de subvention est de 20 000 euros. Des personnes ne peuvent pas voter, donc M. Philippe Debril, M. Francis Pilois, M. Francis Ménager, Mme Thécla Ménager, Mme Irène Ferranc et M. François Débouvry. Y a-t-il des commentaires ou pas? Donc, hormis ces personnes, qui s'abstient, qui vote pour?
La délibération est adoptée à l'unanimité. Des votants, donc 27 personnes.
Donc ensuite, je vais faire une présentation de deux conventions qui, en l'occurrence, sont les deux mêmes conventions. C'est les conventions de partenariat pour le niveau de vie des agents communaux et pour l'une et pour l'autre, pour le niveau de vie des Lissois, entre la ville de Lissé-Lannois et la structure Salarium. Donc je vais vous lire la délibération parce qu'elle mérite une attention particulière. Dans le cadre de sa politique d'action sociale, la commune de Lissé-Lannois entend répondre aux besoins de ses agents municipaux et de sa population. Dans un contexte déjà marqué par la stagnation du pouvoir d'achat, la crise sanitaire Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales font peser sur le niveau de vie de nos concitoyens un risque d'insécurité financière sans précédent, cela quelle que soit leur situation personnelle, professionnelle ou familiale. Je pense que nous sommes dans une commune où nous entendons très régulièrement des fermetures d'entreprises aux alentours, pas dans notre commune, et nous connaissons, je pense, chacun les personnes qui travaillent dans ces structures, et ce type de convention permet de répondre à cette crise, mais également à des situations qui existaient déjà auparavant. C'est pourquoi la commune de Lycée-Lannoy et Salarium souhaitent mettre en œuvre une stratégie de prévention forte dédiée à sécuriser le niveau de vie des Lyssois. Et on parle bien de prévention. C'est un outil qu'on ajoute, qu'on mettra à disposition des Lyssois et des agents communaux pour éviter qu'ils rentrent dans une précarité, voire pour certains, dans des situations dramatiques. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et la stratégie nationale pour l'éducation financière du public, Salarium, entreprise solidaire, a été labellisée par l'État Point Conseil Budget. Elle a pour objectif de prévenir les situations de surendettement et d'accompagner les personnes dans la gestion de leur budget. Donc cette association aura un partenariat avec aura une visibilité, parce qu'on mettra une communication, cette structure, pardon, aura une visibilité via la communication ville, également sa communication, pour que les Lyssois qui se sentent dans une situation financière fragile, quelquefois pour des ménages qui comptent à l'euro près en fin de mois, à 10, 15 euros, pour qu'ils puissent se renseigner auprès de ce point conseil budget afin de diminuer leurs factures, revoir, renégocier leurs contrats, car c'est souvent pour beaucoup de personnes un parcours du combattant face à des groupes qui connaissent bien la difficulté des personnes et qui profitent de ces situations. Donc là, cette structure qui est labellisée par l'État, qui est une entreprise sociale et solidaire, interviendra pour aider les citoyens de la commune. Nous sommes, je le pense, l'une des premières, parce que je ne pense pas que d'autres conventions, mais je sais que d'autres communes étaient intéressées par ce projet, nous sommes l'une des premières communes à rentrer dans ce dispositif avec cette structure qui est labellisée par l'État. Au niveau du coût pour la population, il n'y en a pas. Par contre, au niveau de notre participation pour nos employés, et bien sûr, si les employés ont besoin de solliciter l'association, nous ne souhaitons pas connaître l'identité de la personne. Et ça a bien été convenu, comme pour l'ensemble des personnes qui auront affaire au service de Salarium, nous ne souhaitons pas connaître les identités. Et ça a bien été convenu, c'est très clair. Mais si des salariés, des employés municipaux contactent cette structure, nous participerons financièrement pour l'agent en payant l'abonnement d'un mois pour les aides. Voilà comment les choses sont convenues. Je pense que c'est une bonne œuvre pour la situation difficile, une première pierre de la situation difficile que nous connaissons et que nous allons sans doute connaître encore pour les mois à venir. Et c'est, j'insiste sur le thème prévention, c'est pas aller dans le curatif et forcément donner des aides pour les situations et pour les personnes qui sont en difficulté. On souhaite, avec la structure, aller en amont. C'était présenté au début par l'association Yellow, via Salarium, après avec Salarium, mais c'est à peu près la même identité, ce sont les mêmes personnes qui s'occupent des choses. Mais j'insiste sur le terme prévention et le côté anonymat des choses. Voilà, je ne sais pas s'il y a des interventions sur ces deux conventions. S'il n'y a pas de... Si... Monsieur Landré.
Oui, bien, alors, une récente étude de l'INSEE, et ça confirme exactement ce que vous disiez, sur l'endettement des ménages au niveau national, montre que 20% sont à découvert chaque mois. L'objectif de cette convention doit permettre de prévenir et d'accompagner les familles dans la gestion de leur budget. Nous approuvons totalement cette action solidaire tournée vers les citoyens en situation précaire.
Voilà, je vous remercie et je ne doutais pas de l'unanimité qui se profile pour ces deux conventions. Donc on va les voter une par une, hein, bien sûr, mais... Merci pour les citoyens qui en auront besoin. Et on fera, et c'est un engagement qu'il y a de Salarium, qui donnera le nombre de Lissois, bien sûr, hein, sans les identités, je le répète, mais le nombre de Lissois qui auront eu recours à ces services. Et nous allons pouvoir passer au vote. Donc, qui s'abstient pour la première convention, donc convention de partenariat pour le niveau de vie des agents communaux. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?
La convention est adoptée à l'unanimité.
Donc, deuxième convention. Convention de partenariat pour le niveau de vie des Lissois entre la ville de Lissy-la-Noix et Salarium. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?
La convention est adoptée à l'unanimité.
Merci. Je vais passer la parole à Madame Cess concernant le remboursement des centres récréatifs, des mercredis récréatifs et des accueils de loisirs. Surtout concernant les mercredis récréatifs où l'inscription se fait au trimestre et les personnes qui se sont inscrites fin du mois d'août, début du mois de septembre, vu les conditions, ne connaissaient pas forcément la situation du mois de décembre. Donc c'est aussi s'adapter par rapport aux besoins de nos concitoyens. Voilà. Y a-t-il des remarques ? Pas de questions. Donc nous allons pouvoir passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Maintenant, tableau des effectifs, modification du tableau des effectifs.
Bonsoir à tous. Afin de prendre en compte les évolutions de carrière, les départs en retraite et le cas particulier de la police municipale, il vous est proposé une délibération pour la modification du tableau des effectifs avec la création des postes suivants. Un poste d'adjoint administratif de première classe, un poste d'adjoint administratif, un poste d'adjoint d'animation de première classe et deux postes de gardien brigadier.
Voilà. Alors, petite précision, on a fait deux conseils municipaux avec des ouvertures de postes pour des avancements de grade. Lors du prochain conseil, celui d'après, parce que ce sera celui du DOB, donc du débat d'orientation budgétaire, mais celui d'après, on passera à la suppression des postes, vu qu'il y aura eu les avancements en question. Voilà. Y a-t-il des questions ou des demandes de précision sur ce tableau ? Il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?
La modification du tableau des effectifs est adoptée à l'unanimité.
Merci. Thierry, Monsieur Le Mans, règlement général du cimetière, modification. Bien évidemment, le groupe de travail n'a pas rendu un nouveau règlement, mais je pense que tu vas donner des explications.
Pour le règlement 1-2, vous m'entendez bien ? Alors, il faut que... Donc, en fait, pour le règlement intérieur, général du cimetière, pour le groupe de travail, il s'agit en fait de mettre à jour ce règlement par rapport, bien sûr, à la situation que nous vivons tous depuis plusieurs mois et de rendre ce règlement un peu plus lisible, aussi bien pour les entreprises qui travaillent avec la municipalité concernant le cimetière que la population et même la municipalité. Il y a nous avons changé quelques petits articles au niveau, pardon, excusez-moi, au niveau de la rédaction, mais il faudra que notre groupe de travail refonde totalement ce règlement.
Alors, sommaire. Oui, donc les modifications, ce sont de légères modifications. Il n'y a qu'une innovation. Je vais les laisser après. Votre intervention, Mademoiselle Desmulliers. La première, c'est qu'on a changé les noms de LMCU en Métropole Européenne de Lille. Je pense que ce sont ce type de mise à jour. Et la mise à jour la plus importante, parce qu'on a de nombreuses demandes des familles, c'est de pouvoir prolonger les concessions, si c'est une concession trentenaire, en 15 ans, et non refaire une concession de 30 ans, parce que des familles n'arrivent pas à se projeter dans les 30 ans, et on peut bien le comprendre. Je vais laisser
les élus du groupe Agir Ensemble vont voter pour ces changements apportés sous le règlement intérieur, tout en sachant qu'il y aura une commission spéciale qui se réunira pour l'élaboration d'un nouveau règlement. Nous constatons, et c'est ce que vous venez de dire, que l'article 22 permet désormais le renouvellement des concessions de 30 et 50 ans, soit pour la même durée, soit pour une période plus courte de 15 ans, ce qui correspond à une demande des familles lilloises. Nous ne pouvons que l'approuver. Par contre, pour d'autres articles, il conviendra de donner des précisions, ce qui pourra se faire lors de la réécriture du règlement. Par exemple, pour l'article 29, le colombarium jardin d'urne, concernant en particulier la possibilité, à la demande des familles, de sceller l'urne cinéraire sur un monument funéraire qui ne correspond pas obligatoirement au colombarium et au jardin d'urne. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres qui explique la nécessité aussi de la réécriture du règlement. Je vous remercie.
Je ne peux qu'être d'accord. Et comme je l'ai dit, comme on l'a dit en commission avec M. Le Mans, le temps de la réécriture du règlement prendra le temps qu'il faudra. Il n'y a pas l'obligation de rendre un nouveau règlement, un projet au mois de mars prochain. Si ça doit être en septembre prochain, voire en décembre prochain, c'est pas un problème. Mais il faut que les choses soient bien préparées en amont et que ça puisse être le plus facile pour tout le monde et le plus compréhensible. Voilà, donc je vous propose d'adopter ce règlement. Donc qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?
Le règlement général du cimetière est adopté à l'unanimité.
Monsieur Le Mans, tarif du cimetière communal.
Alors, concernant les tarifs du cimetière communal, nous avons procédé à une légère augmentation puisque les derniers tarifs dataient de l'année 2018. Donc, comme précédemment nous l'avons évoqué, on voudrait donner la possibilité aux familles qui auraient des concessions qui arriveraient à expiration au bout de 30 ans, de pouvoir soit la renouveler sur 15 ans ou 30 ans. Donc nous avons, donc avec les services, vu comment on pouvait établir les tarifs que vous avez en annexe. Les augmentations sont, si je puis m'exprimer ainsi, assez minimes. Qui représente, en fait, c'est une augmentation qui représente 3%.
Y a-t-il des remarques ou des questions ? Non, donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? qui votent pour. Je vous remercie. Enregistrement au système national d'enregistrement. Répétition. Ce système donc permettra à notre centre communal d'action sociale, dans lequel le service logement est compris, de pouvoir enregistrer les Lissois qui en font la demande directement et d'éviter de multiples prises de rendez-vous. Ça nous permettra de flécher et de comprendre plus facilement leurs besoins au niveau de leur lieu de résidence ou alors leur demande de mutation. Voilà, je pense que j'ai résumé cette délibération assez rapidement, en sachant tout de même que la ville avait été pré-candidate lors du mandat précédent, mais que nous n'avions pas donné suite du fait d'une multiplicité de réunions avec la métropole. Mais là, la métropole a au moins quelque chose maintenant de plus lisible. Donc ça facilitera le travail des agents de la ville, mais ça facilitera aussi les Lissois dans leur démarche. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour?
Délibération adoptée à l'unanimité.
Police municipale, installation d'un système de vidéoprotection. Monsieur Mortier.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, cette délibération a pour but de vous présenter l'installation d'un système de vidéoprotection pour la rue Gustave Nadeau à Lycée-Lannoy. Donc on va essayer de faire ça assez expressément. Et ce dispositif aura pour but de dissuader par la présence ostensible de deux caméras, de réduire le nombre de faits commis, de renforcer le sentiment de sécurité. Il y a un réel besoin d'équipement et cet outil aidera justement à identifier les auteurs des infractions et appréhender au mieux ces problématiques par notre police municipale. Voilà pour la présentation de la délibération. Y a-t-il des questions ?
Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Maintenant, je... Ah oui.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Toi, tu des gestes paratérimes, ça marche. Donc, je vais passer la parole à M. De Vruyde concernant le contrat unique et la politique de la ville.
Bonsoir à tous. Bon, bah, c'est une convention qu'on renouvelle tous les ans, donc il n'y a pas de changement pour cette année. On travaille aussi pour l'année prochaine sur d'autres projets, quand je vous tiendrai informé à l'avancée de nos travaux.
Voilà, donc vous avez, comme le dit Philippe, c'est exactement les mêmes priorités, les priorités qui concernent l'emploi et l'accès à l'emploi et la vie quotidienne. Et vous avez la liste des projets, des structures avec lesquelles on travaille, comme le CIAVIC, Horizon 9 ou le Centre social des Trois-Villes. Voilà, y a-t-il des questions, des remarques, Madame Vanov?
Bonsoir à tous. Effectivement, lors de la commission de travaux, sécurité, développement durable, politique de la ville, handicap et transport, nous avons principalement abordé le renouvellement de la convention de partenariat 2021 entre la ville de Lisle-et-Lannoy et le centre social des Trois-Villes. Donc on nous a présenté la convention avec les mêmes objectifs que la précédente. Vous vous êtes engagé de ce fait à nous donner plus d'informations une fois l'assemblée générale du centre social des Trois-Villes passée, mais nous n'avons pas abordé nous n'avons pas abordé, les actions programmées en 2021 par l'initiative de la ville. Pourriez-vous éventuellement nous présenter brièvement, même si quelques-unes sont listées, brièvement vos actions pour 2021 ?
Bon, donc vous les avez là, le soutien au développement économique et le renforcement à l'accès à l'emploi, soutenir les parcours scolaires afin de pallier les handicaps des jeunes en difficulté en favorisant la réussite éducative, s'assurer des conditions de vie paisibles et par l'amélioration du cadre de vie et le renforcement des dispositifs de sécurité et de prévention de la délinquance, faciliter la vie des habitants au quotidien en renforçant la proximité et l'équité dans l'accès des ressources de la collectivité, renforcer la solidarité en direction des publics les plus démunis et isolés.
Alors, donc en fait, ce sont les mêmes que lors de la convention précédente, vous n'en développez pas d'autres pour 2021 ?
Non, pour l'instant, on travaille sur le même projet, puis il y aura des améliorations qui vont être faites prochainement, certainement, mais pour l'instant, vous n'en direz pas plus.
Merci.
Y a-t-il d'autres remarques ? Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
La convention est adoptée à l'unanimité.
Madame Cesse, pour l'acompte de subvention.
Donc là, il s'agit de l'acompte de subvention globale donc, pour l'année 2021. Comme tous les ans, donc, cette subvention est votée pour participer au fonctionnement de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école Saint-Luc. Le budget étant voté courant mars, un acompte forfaitaire va être versé. Comme tous les ans à l'école, afin d'assurer son fonctionnement normal et la gestion de sa trésorerie, donc en attendant le vote du budget.
Je pensais que tu aurais parlé plus longtemps. Donc, y a-t-il des questions ou des remarques ? Non, pas de questions, c'est libération classique. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Merci.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Avant de faire des commentaires sur la motion que Nathalie, Madame Top va, Pastoré va présenter, je te laisse la présenter, je ferai un petit commentaire après.
Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Concernant la motion que nous avons écrite pour le soutien à la Ligue protectrice des animaux, il va sans doute que tout le monde a entendu via les réseaux sociaux et puis par le journal, les journaux du secteur, qu'il y avait donc eu des suites à des vents violents, de la pluie, il y a eu la toiture de la Ligue protectrice des animaux qui est parti en vrille, donc ça a entraîné des problématiques au niveau de d'ossature des murs qui se sont effondrés. Et donc nous, en tant que Lissois et puis protecteur des animaux, on tenait à établir une motion que je vais vous lire brièvement. Hein, donc dans cet appel, il est question d'un bâtiment qui ne répond plus aux normes en vigueur pour les raisons suivantes: présente d'amiante, des box trop exiguës et non adaptées aux différents types de chiens et chats, peu de terrain propice aux promenades journalières. Aussi, lors des présentations de l'adoption, il va sans doute qu'un établissement tel qu'il est là ne contient pas, je veux dire, un élan pour l'adoption, puisqu'il n'est pas adapté pour les rencontres entre l'animal en question et puis le futur adoptant. Donc les locaux non plus ne respectons pas aux normes sanitaires, vu qu'ils comportent de l'amiante. Donc, attendu que toutes ces raisons évoquées n'incitent plus aux visites ni aux adoptions et ne correspondent plus aux critères du bien-être et au respect de l'animal, attendu que l'équipe en place est pourtant riche de projets, comme des visites scolaires organisées, afin d'informer nos adultes de demain sur les conséquences de la venue d'un animal au sein d'une famille, la thérapie et la présence d'un animal en EHPAD, attendu que le site actuel ne permet pas une projection positive de ses projets à venir, attendu que la ville de l'Islanois ne peut supporter à elle seule ce projet, attendu que seule une dynamique intercommunale peut interpeller la métropole sur ce sujet, nous interpellons donc la métropole pour faire avancer le sujet. Y a-t-il des questions ?
Voilà, alors cette motion, nous la remettrons au président de la MEL, car nous estimons qu'une ville seule ne peut pas mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire une centaine de milliers d'euros sur la table, sans en parler aux villes du secteur. Pour préciser les choses, cette question a été évoquée avec les maires du secteur, donc du territoire roubaisien, lors de la rencontre du territoire, par visioconférence bien sûr. Cette question a été évoquée. Mais je pense que si on n'interpelle pas la métropole, nous pensons, ça ne bougera pas forcément. Ça revient depuis de nombreuses années, ce sujet revient depuis de nombreuses années. Maintenant, la population est quand même plus attentive à la question du bien-être animalier, et c'est également pour nous un de nos prestataires, vu que les chiens ou les chats mis en fourrière, c'est la LPA qui s'en occupe. Il n'y a que deux sites dans la métropole qui font ce travail. Ce sont les sites de Roubaix et le site de Lille. Donc il nous semble aujourd'hui important de réunir l'ensemble des acteurs, à savoir la métropole et les élus de la métropole. Hein, c'est deux institutions différentes, même s'il y a quelquefois les mêmes personnes, pour qu'on puisse avoir une feuille de route avec la LPA plutôt que de faire des petites opérations de communication à donner un peu d'argent, mais il faut voir ça sur le long terme. Voilà, y a-t-il des remarques ou des demandes d'intervention à ce sujet ? Monsieur Landré ?
Oui, juste une question. Donc cette motion sera également présentée dans les différents conseils municipaux des communes concernées, ou c'est seulement Lys qui présente la motion ?
Non, c'est une motion d'interpellation pour la métropole et pour... Voilà, il n'y a que nous qui faisons cette interpellation. Mais on ne met pas comme une commune à l'index les autres, je donne de l'argent et vous donnez aussi. Parce qu'il faut plutôt voir au niveau de la participation de chaque habitant, au niveau de du nombre d'habitants, hein, ce que je veux dire, et voir qui est concerné et qui s'investit. Mais on fera passer cette motion au moins au niveau des villes du territoire roubaisien, pour que ça puisse faire avancer les choses.
D'accord, merci.
Mais ce n'est pas une motion conjointe, voilà, si c'est exact, si c'était votre question. Donc, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose maintenant de passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Ah ouais, j'ai changé. Voilà, et qui vote contre ? Personne.
Cette motion est donc adoptée à l'unanimité.
Alors, je vais laisser la parole à Madame Demey pour la présentation du CRAC pour la commission communale pour l'accessibilité de la ville de Lisle-la-Noire.
Merci. Bonsoir. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation, la citoyenneté des personnes handicapées, impose que le rapport d'activité de la CCA soit présenté au Conseil municipal. L'événement crucial de cette année 2020 est la crise sanitaire. Via le LIS Info et le site Internet, les Lissois en situation de handicap et leurs familles ont été informés des actions solidaires lesquelles permettent de vaincre la solitude et de s'adaptant à chaque situation. Les actions solidaires suivantes ont été présentées en CCA. La Croix-Rouge a maintenu le lien social en mettant sur pied la Croix-Rouge chez vous, un numéro d'écoute et de livraison solidaire. Face à la crise du Covid-19, gardons le lien et une ligne d'écoute intervenant auprès des personnes vulnérables, confinées et en situation d'isolement social. Pendant la crise du Covid-19, les communautés 360 mettent leurs compétences professionnelles d'évaluation, d'écoute psychologique, d'orientation et de coordination au service des personnes en situation de handicap. La plaquette d'information « Je reste confiné et je me déconfine » était disponible sur le site internet de la commune. Elle est destinée aux personnes en situation de handicap, malades ou ayant plus de 65 ans. Pendant le premier confinement, il a été prévu de maintenir automatiquement les droits et les prestations MDPH en cours. Il a été présenté en CCA une étude nationale Vive Covid-19 de France Assos Santé. Pendant le premier confinement, les personnes en situation de handicap se sont retrouvées en rupture de soins chroniques. Cette étude permet d'analyser les conséquences provoquées par la rupture de soins chroniques chez les personnes en situation de handicap. Le rapport d'activité de la CCA 2020 sera disponible sur le site internet de la commune et envoyé en préfecture. Je vous remercie.
Merci Pascal. Donc, comme c'est un crack, ça n'appelle pas de vote. Également le crack sur de Solia, Métropole Nord, qui est disponible au secrétariat général. Vous avez le compte-rendu d'activité 2020 du CIVU Le Petit Prince. Donc, vous avez les chiffres qui ont été donnés. Et également le crack pour le rapport d'activité 2019 du CNFP. Et vous avez aussi les actes de décision que j'ai signés du 1er septembre au 31 octobre 2020. Je ne pense pas qu'il y ait de questions. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année, qu'elle soit la plus reposante pour tous et je vais même oser qu'elle soit la plus libre possible et qu'elle nous annonce de bonnes nouvelles pour l'année 2021. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à l'année prochaine.